Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé.
Nous sommes dimanche 17 décembre 2023. Dans exactement 14 jours, 2024 ouvrira ses portes dans nos deux mers respectives. Internautes et auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour et bienvenue dans votre tranche qui fait le point des principales informations diffusées dans les éditions du journal de la radio qui fait de votre santé sa priorité, Radio Afrique Santé. Santé ancêtre de la semaine de ce lundi 11 décembre à ce dimanche 17 décembre 2023, c'est parti pour le condensé. Démarrons déjà par le registre santé mentale. La semaine dernière, l'ONG Femmes et Vie a apporté sa pierre à l'éradication des violences basées sur le genre. Cette initiative de l'ONG Femmes et Vie entre dans le cadre de la campagne dénommée 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre qui s'est achevée le 10 décembre dernier. Les discussions se sont accentuées sur la dépression dans le couple. Objectif: montrer avec images à l'appui comment les violences basées sur le genre conduisent à la dépression. Quant au rendu, Ewan Oliri.
Le lien entre la violence et les problèmes de santé mentale est beaucoup plus fort chez les femmes. Et l'un des troubles mentaux issus des violences basées sur le genre est la dépression. C'est ce qui ressort des différentes explications des panélistes. Mais d'autres facteurs peuvent aussi favoriser la dépression, à en croire Ernest Bollen, psychanalyste, psychologue de travail.
Il y a une première cause qui est une cause existentielle, c'est que la dépression part de qui l'on est, c'est-à-dire de sa personnalité, comment on a grandi. La deuxième chose, c'est que la dépression peut venir des chocs émotionnels de la vie, un deuil, une perte, un échec grave. La troisième cause de la dépression, c'est que la dépression peut venir d'une situation de rejet grave, c'est-à-dire lorsque l'on perd de manière dramatique une relation dans laquelle on était très attaché. La dépression peut venir.
Les personnes déprimées sont sujettes à des maladies cardiovasculaires. À cela s'ajoute l'impression de solitude et les idées solidaires. Ernest Bollen.
La dépression se présente un peu comme un virus. Lorsque la dépression prend quelqu'un, rapidement, lorsque la personne exprime sa dépression vers d'autres personnes, ça peut générer de la dépression vers ces personnes-là aussi. Parce qu'un individu dépressif est un individu qui agit comme une âme blessée ou une personne blessée. Comme on le dit généralement, les blessés blessent. La deuxième conséquence, c'est que la dépression peut conduire à développer des idées noires comme des idées suicidaires. L'individu peut vouloir en finir avec la vie parce que l'individu se retrouve dans une tristesse lui faisant perdre tout état de motivation de vivre. La troisième conséquence de la dépression est que la dépression peut attirer des dégâts dans la société. Ça peut attirer la violence, même le meurtre, les drames.
La dépression résulte des violences basées sur le genre. Pour cela, bon nombre de sanctions sont réservées aux pratiquants de la violence, selon Ornist Apovo, avocate stagiaire au barreau du Bénin.
Que ces infractions sont punies et durement punies par la loi. Les peines des auteurs de ces infractions vont de 3 ans à 10 ans d'emprisonnement, des amendes de 200 000 à 10 millions d'amendes. Et également, il faut qu'ils sachent que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est la Cour qui s'occupe justement de ces infractions-là. Donc, ils seront sévèrement punis s'ils s'adonnent à cela.
L'amour pour soi-même est la solution majeure contre la dépression, précisent les spécialistes interviewés.
Restons toujours dans le registre santé mentale et parlons des impacts du divorce parental sur la santé de l'enfant. « Le divorce parental est une épreuve pour les enfants parce que non seulement ils se sentent seuls après cette séparation, mais peuvent également faire face à plusieurs troubles psychologiques. Les enfants de parents divorcés sont à risque de connaître la dépression, voire l'anxiété. Souvent seuls ou mal entourés, certains finissent par mettre fin à leur vie. Pour avoir plus d'explications sur les troubles psychologiques que peut avoir cette situation sur la santé des enfants victimes, suivons cet élément réalisé par Nadirat Bioperegui.
Dans plusieurs pays comme le Bénin, de plus en plus de mariages finissent par un divorce. Au Togo par exemple, selon l'article scientifique « Divorce et remariage des femmes au Togo », 15% des unions commencées à moins de 20 ans et seulement 9% des unions qui ont commencé par les enquêtes à 20 ans ou plus tard sont rompues par divorce avant 5 ans d'union. La séparation des parents peut être un frein sur l'éducation des enfants. Désiré Zinsé est étudiant à l'université d'Abomey-Calavi. Il avait 15 ans quand ses parents se sont séparés. Et il en a fait les frais.
Ouais, à un moment donné, ça n'était pas. La communication n'était pas. Je ne communiquais presque pas, quoi. Juste les salutations matinales. Le soir, c'était tendu à la maison, quoi. Moi, il ne faut pas se créer dessus, tu vois. Et c'était comme ça presque tous les jours. Bon, en tant qu'ado, j'étais vraiment livré à moi-même. Je me sentais seul, vraiment seul. J'ai commencé à traîner tard avec les potes. Je faisais ce qui me plaisait, quoi. Sans restriction, sans contrôle. En ce qui concerne les difficultés que j'ai rencontrées, surtout au niveau des tâches ménagères, j'arrivais pas à m'en sortir, quoi. Bon, tous les matins, se lever, faire tout ça, faire les travaux domestiques avant d'aller au cours, rentrer le soir, cuisiner. Tout ça affectait vraiment mon rendement à l'école, j'étais devenu un peu très nerveux et vraiment timide, quoi.
Après la séparation des parents, il n'est pas rare de constater que ces enfants ont aussi des pensées négatives. Ils présentent parfois des troubles psychologiques qui varient selon l'âge, à en croire Sebapo Michel Ange. Elle est psychologue clinicienne.
La séparation des parents peut entraîner chez les enfants des troubles anxieux où l'enfant peut faire une anxiété généralisée. Ça peut aussi entraîner chez eux une instabilité émotionnelle où ils peuvent passer par beaucoup d'émotions, la tristesse, la colère, la peur. Et ça peut également causer des troubles du comportement alimentaire. Il peut développer une diarrhée fréquente qui aura pour cause la peur, des troubles du sommeil et des troubles psychologiques. Somatique. Ces troubles varient selon l'âge parce que c'est souvent chez les petits-enfants qu'on les remarque. Ils n'arrivent pas à cacher ces troubles. Par contre, quand il s'agit des adolescents, ils se tournent beaucoup plus vers les amitiés pour pouvoir supporter la souffrance.
Comment aider ces enfants à mieux vivre la séparation des parents? Dans quel cas il faut consulter un psychologue? Sebapo Michel Ange, psychologue clinicienne.
Pour aider les enfants, il faut que les deux parents soient sur la même longueur d'onde. Qu'ils se respectent d'abord, privilégier une communication ouverte et positive, montrer à l'enfant que son intérêt prime plus que tout ce qu'il y a et que l'amour que le parent a pour lui reste toujours intact. Par exemple, vous constatez que l'enfant ne mange plus. C'est dû à la séparation parce qu'il décide de faire une grève de faim, mais de façon inconsciente. Donc, dans ce cas, il faut consulter un psychologue pour la prise en charge de cet enfant.
Une communication positive entre les parents séparés est un moyen qui peut aider les enfants à surmonter cette épreuve qu'est la séparation des parents.
Parlons à présent éco-santé. L'éthique alimentaire et les pratiques médicales étaient au cœur d'une table ronde la semaine dernière à Cotonou dans le grand amphithéâtre médecine de la faculté des sciences de la santé FSS de Cotonou. Cette initiative de l'agence Conseil en communication agricole ACCA est organisée dans le cadre des journées de l'agriculture éco-santé. Le panel a réuni les nutritionnistes, diététistes et les spécialistes des questions agricoles. Rachel Kpassassi pour le compte-rendu.
Le manque d'éthique alimentaire influe sur la qualité des aliments que nous consommons. Cette qualité d'aliments consommés étant altérée, la santé peut prendre un coup. L'application des normes alimentaires depuis la pratique culturelle en passant par la production, la transformation et la distribution jusqu'à la consommation nécessitent d'observer l'éthique alimentaire. Félix Sonon, chef service du département de nutrition au ministère de la Santé.
Les aliments bio sont rares. Mais ce n'est pas là le problème. Là où il y a le problème, est-ce que la quantité d'engrais qu'on doit utiliser, est-ce qu'on a respecté? Toute la politique est là, au point où, lorsque c'est en excès, vous aurez des résidus dans ces aliments. Ces aliments, lorsque ça va être transformé, si les pratiques de transformation ne sont pas respectées, surtout les pratiques de conservation ne sont pas respectées, on va encore ajouter d'autres trucs, ça peut être des colorants, des conservateurs, etc. Et lorsque ça se retrouve dans l'organisme maintenant, l'organisme a des difficultés de les éliminer et puis ça ouvre la voie donc à des déviances sanitaires et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Au point où la sécurité sanitaire des aliments que nous consommons aujourd'hui est mise à rude épreuve. C'est pour cela que nous avons estimé que c'est important d'aborder cette thématique pour passer en revue tous ces moyens qui interviennent depuis la production jusqu'à la consommation de l'aliment pour que chacun puisse prendre ses responsabilités et agir conséquemment en suivant l'éthique alimentaire pour permettre à ce que, au final, l'aliment qui est consommé puisse non seulement être des aliments sains, mais plutôt des aliments bien riches pour pouvoir apporter les substances nutritives qu'il faut.
La santé de l'être humain est très étroitement liée à la santé de l'écosystème. Pour cela, les panélistes recommandent l'approche éco-santé pour faire face aux défis liés aux systèmes alimentaires. Aiméric Darbou, spécialiste en qualité de l'aliment, est l'un des panélistes.
Pour faire face aux défis que nous avons en termes de nutrition, il est important que la composante de l'éco-santé soit intégrée et donc plus largement qu'on pense au système alimentaire. Comment optimiser les systèmes alimentaires pour fournir des aliments sains aux gens et qui seront adaptés aussi à leur culture.
Le panel sur l'éthique alimentaire et pratique médicale s'est soldé par une série de questions-réponses.
Couverture sanitaire universelle, que savent les Béninois de ce concept et que fait le Bénin pour atteindre cet idéal? C'est la question qui était au centre de notre édition de journal de la journée du mardi 12 décembre 2023. Chaque année, le 12 décembre, le monde célèbre la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle CSU. C'est une date officielle désignée par les Nations Unies pour mieux faire comprendre la nécessité de disposer de systèmes de santé solides, équitables et résilients. Le thème de cette année 2023 est « La santé pour tous, l'heure est à l'action ». Mais quelle compréhension les habitants d'Apomey-Calavi ont-ils de la CSU ? Quelques-uns répondent au micro de Radio Afrique Santé.
La couverture sanitaire universelle, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour faciliter l'accès aux soins de santé par les individus.
Je dirais que la couverture sanitaire universelle a été mise en place pour pouvoir aider toutes les personnes de n'importe quelle catégorie, surtout les personnes démunies, à avoir accès aux soins de santé gratuits.
La couverture sanitaire universelle, selon moi, signifie la capacité de chaque personne à avoir recours aux services de santé sans être exposé à des difficultés financières. La compréhension que j'ai de cela est que la couverture sanitaire universelle est une idéologie qui vise à permettre à tout homme de n'importe quelle couche sociale de pouvoir avoir accès aux services de santé.
La couverture sanitaire est mise en place pour venir en aide à ceux-là qui ont un niveau de vie assez faible.
La couverture sanitaire universelle est un concept de l'Organisation mondiale de la santé qui ambitionne que chaque personne ait accès à tout l'éventail des services de santé de qualité dont elle a besoin, partout et à n'importe quel moment où elle en a besoin sans que cela génère pour elle de difficultés financières. C'est un concept qui rime avec la principale mission de l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS du Bénin. Lucien Dosoubété est le président de l'ARS. Il nous édifie sur la contribution de l'ARS pour une couverture sanitaire universelle.
Pour l'autorité de régulation du secteur de la santé, jouer un rôle et ou contribuer à la réalisation de la couverture sanitaire universelle au Bénin coule de source. Et pourquoi ça coule de source? Parce que l'autorité de régulation du secteur de la santé est un des fruits de toutes les réformes qui sont mises en œuvre dans le secteur. Et avant d'avoir ces fruits, il a fallu commencer par un état des lieux. Cet état des lieux a montré qu'il y avait des insuffisances. et que le président de la République, M. Patrice Talon, avait bien raison de dire que c'était un domaine qui était important à aborder. Et que pour lui, il est important que lorsqu'un Béninois va chercher des soins de santé, qu'il puisse les trouver. Et la couverture sanitaire universelle, elle dit bien que c'est la possibilité pour chacun, quelle que soit la nature de ses besoins en service de santé, qu'il puisse le trouver facilement en ayant des soins de qualité sans s'exposer à des pertes financières importantes. Et donc, l'autorité de régulation a été mise en place pour veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de la qualité de l'offre et de la sécurité des soins. Et quand on voit ça, on est tout à fait dans la logique de la couverture sanitaire universelle quand on écoute la mission qui a été assignée à l'ARS.
Au travers de la phase de généralisation de l'assurance maladie pour le renforcement du capital humain à RCH, le gouvernement béninois ambitionne accélérer la marche du Bénin vers la couverture sanitaire universelle. Pour bien faire les choses, le Conseil des ministres en sa séance du 26 septembre 2023 a autorisé la consolidation du registre social unique RSU. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance explique l'intérêt de cette consolidation. Véronique Toinfoli.
Toutes les personnes extrêmes pauvres et non extrêmes pauvres n'ont pas été prises en charge, occasionnant parfois dans les centres de santé une insuffisance de couverture de prise en charge ou des difficultés qui remontent au gouvernement. Il est prévu la consolidation de ce régime social unique initial par la possibilité de nouvelles portes d'entrée, notamment par les hôpitaux, par les centres de promotion sociale. Cela permettra désormais de résorber les questions de malades vulnérables qui traînent dans les structures pour non-paiement de factures de soins. Enfin, le gouvernement tient dans sa stratégie d'un capital humain de qualité à atteindre la couverture sanitaire universelle qui permettra à tout Béninois travaillant dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, y compris le secteur informel, d'avoir accès aux soins de santé de qualité.
Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle, un panel a réuni à Cotonou les mouvements mutualistes de la sous-région. Objectif de cette rencontre qui a duré 48 heures, étendre la couverture sanitaire aux plus pauvres. Ewan Olidi pour le point.
La couverture sanitaire universelle, CSU, est un système qui permet à toute personne de bénéficier des services de santé dont elle a besoin, où qu'elle se trouve, sans être exposée à des difficultés financières. Plusieurs sont les impacts de la CSU dans le monde, selon Hugues Thibozo, expert en couverture sanitaire internationale.
La CSU est très intéressante parce qu'il y a une relation qui est établie entre les progrès des États vers la CSU et les indicateurs clés de santé, notamment l'espérance de vie en bonne santé. Il a été démontré que plus un pays progresse vers la couverture sanitaire universelle, et plus longtemps vivent les populations en bonne santé. Quand on prend rien que la région d'Afrique, les progrès réalisés en deux décennies ont permis de faire progresser l'espérance de vie en bonne santé de 9 ans. Ça veut dire que si nous pouvons continuer à faire des efforts significatifs, on pourra espérer que l'atteinte des objectifs de la CSU puisse contribuer à booster les indicateurs clés de santé, notamment l'espérance de vie en bonne santé.
Le calcul de l'indice de couverture des services pour la CSU se fait selon des règles bien précises. Trois dimensions sont prises en compte dans le suivi de la CSU. Aboubakar Kotoyerima, président du Conseil national des structures d'appui aux mutuelles sociales.
Lorsqu'on parle de couverture sanitaire universelle, quelle est la proportion de population qui est couverte? Ça, c'est la première chose. Et donc, dans le suivi de la CSU, on est attentif à ça. La deuxième dimension de la CSU, c'est la couverture des services. Vous couvrez votre population en matière sanitaire, mais vous les couvrez en quoi? Qu'est-ce que vous prenez en charge pour eux? La troisième dimension, c'est celle-là maintenant qui concerne la protection financière. La protection financière en ce sens que, ok, vous couvrez X, il est malade, il va aux soins de santé. Est-ce qu'on prend toutes les dépenses en charge pour lui? Ou bien, s'il fait 100 francs de dépenses, on lui demande d'apporter juste 5 francs, bien lui donne 60 francs et puis la couverture sanitaire prend en charge pour lui juste 40 francs.
Pour atteindre les objectifs de la CSU, plusieurs défis restent à relever. Il s'agit notamment de la disparité au niveau des États et de la répartition géographique des populations. Hugues Tibozo, expert en couverture sanitaire internationale.
Même si les progrès ont été réalisés en ce qui concerne le premier indicateur, c'est-à-dire l'indice de couverture en services de santé essentiels, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de disparités au niveau des États. De nouvelles infrastructures sont mises en place, des ressources humaines sont recrutées, formées, mais la répartition géographique reste encore un défi, dans la mesure où la plupart de ces infrastructures sont encore concentrées dans beaucoup de pays, dans les grands centres urbains. Il y a encore des zones entières reculées qui continuent d'être ce que d'aucuns appellent des déserts médicaux. Et en ce qui concerne le deuxième indicateur relatif à la protection financière des populations, les défis sont encore plus importants parce qu'il y a beaucoup à faire pour que les groupes sociaux vulnérables puissent être pris en charge de manière beaucoup plus adéquate sans que leur capacité financière faible ne soit un handicap pour leur accessibilité aux services de santé de qualité. Donc les défis sont encore importants sur les deux volets essentiels qui permettent au système des Nations Unies de mesurer les progrès des États vers la couverture sanitaire universelle.
Cette rencontre qui réunit les mouvements mutualistes prend fin ce mercredi 13 décembre 2023.
D'une journée à une autre, le mercredi 13 décembre 2023, la communauté béninoise a célébré la 21e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. C'est la place de l'Étoile Rouge de Cotonou qui a servi d'office à la célébration de cette journée. Le thème retenu cette année est intitulé « Contribution de la médecine traditionnelle à la santé holistique et au bien-être pour tous ». Objectif: promouvoir les vertus des plantes africaines et de la connaissance africaine. Quelles que soient les prouesses de la médecine moderne, la médecine traditionnelle détient toujours une place de choix en Afrique et principalement au Bénin. Basile Badito, président de l'Association nationale des praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin.
Il n'y a plus à démontrer aujourd'hui la place que la médecine traditionnelle, que nous ne voulons plus baptiser médecine traditionnelle, dont les gens parlent vulgairement. La médecine africaine est la médecine mère qui regroupe toutes les autres médecines, parce que tout est tiré, reconnu même par l'OMS, puisque l'OMS même a écrit noir sur blanc que la médecine estimée à 80% des populations malades font recours d'abord aux médecins traditionnels.
Le représentant du ministre de la Santé qui a pris part à la dite célébration a expliqué que la médecine conventionnelle est un atout important dans le système sanitaire béninois. Il plaide tout de même pour un assainissement du secteur au Bénin. Ali Imoru Bachabi, secrétaire général du ministère de la Santé.
En réalité, bien que l'État reconnaisse la place qu'elle occupe, notamment dans l'itinéraire thérapeutique du patient, beaucoup reste encore à faire pour assainir le sous-secteur. Des pratiques malsaines, la promotion tous azimuts de produits peu ou pas éprouvés scientifiquement jettent encore discrédit sur l'important domaine du sous-secteur et le bon travail que certains font sur le terrain.
De la place de l'Étoile Rouge de Cotonou, rendons-nous à la place Goro à Abomey. La ville historique a accueilli la 4e édition du chant des volontaires itinérants actifs pour le bien-être des populations Viami. La ville historique d'Abomey accueille depuis le 11 décembre 2023 la 4e édition du chant des volontaires itinérants actifs pour le mieux-être des populations. La cérémonie d'ouverture officielle du chant a été lancée le mercredi 13 décembre 2023 à la place Goro, ce camp qui va prendre fin le 17 décembre prochain, c'est-à-dire ce dimanche, s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale du volontariat célébrée le 5 décembre 2023. Docteur Alice Goubé est la directrice exécutive de l'association à but non lucratif Viami. Elle précise les objectifs de ce camp et les activités sanitaires prévues.
L'objectif de ce camp, c'est d'abord la célébration de la Journée internationale du volontaire. Maintenant, nous ne pouvons pas parler du volontariat sans parler du concret. Le concret, c'est l'épanouissement de nos communautés. Et c'est au découle de ça qui aura les différentes activités telles que la prise en charge des enfants vivant avec des fentes labiales et ou palatines, les personnes vivant avec des séquelles de brûlures et également des personnes handicapées. Sans oublier également le don de sang pour sauver nos enfants qui sont en train de mourir dans les hôpitaux par manque de sang. Donc nous avons choisi cette zone pour faire le don de sang parce que nous avons remarqué effectivement qu'il n'y a pas tellement ces genres d'activités qui sont organisées dans cette zone. Et puis cela a été justement confirmé par le représentant du directeur général de l'antenne nationale pour la transfusion sanguine. Il a dit en 2023, alors que nous sommes déjà en décembre, c'est la deuxième association qui a pensé à leur zone.
Représentant les organisations de la société civile à cette cérémonie de lancement officiel du camp des volontiers, Ambroise Média, directeur exécutif de l'organisation non gouvernementale Jeunesse Action, a exhorté les jeunes d'Abomey en particulier et du Bénin en général à rejoindre la grande famille des volontaires et vaillants.
Les activités entrant dans le cadre de la célébration du volontaire ont commencé depuis le 1er décembre dernier à Guézin, à Douli, où nous avons assisté la cour juvénile en matière de consultation d'octroi gratuit de médicaments. Cette journée qui célèbre le volontaire a été célébrée officiellement le mardi 5 dernier dans la cité de Aïnombi à Port-Nouveau sous la houlette de l'Agence nationale pour l'emploi, désormais tutelle du volontariat au Bénin. Le thème de cette année, c'est « Et si tout le monde le faisait ?» Qu'est-ce que cela voudra dire ? Si tout le monde s'engage volontairement, le monde serait un endroit meilleur. Imaginez plus de 8 millions d'entre nous faisant partie des volontaires. Qu'est-ce que je peux vous donner comme credo aujourd'hui ? C'est de nous rejoindre pour vivre le volontariat avec nous.
À noter que le don de sang inscrit au menu des activités de ce champ se déroule à la place Goro jusqu'au 17 décembre 2023. Le bus de collecte de sang de la Fondation Claudine Talon est sur les lieux pour la circonstance. Il faut dire qu'une foire de vente de produits de bien-être et de nutrition se tient sur le lieu. Le jeudi 14 décembre dernier, le directeur pays de l'UNISUDA Bénin-Togo, Dr Eric Vessouren, a été reçu en audience par Barthélémy Kassa, vice-président de l'Assemblée nationale. C'était à l'Assemblée nationale que cette audience a eu lieu. Cette rencontre a pour but d'annoncer et de préparer la visite au Bénin de la directrice exécutive et sous-secrétaire générale des Nations Unies. La dite visite devrait se tenir en avril 2024. Veiller aux préparatifs administratifs et établir un calendrier des tâches sur la gestion du projet ONU-SUDA au Bénin sont les principaux sujets sur lesquels Barthélémy Kassa et son hôte se sont entretenus. Dr Eric Vessouren, à l'issue de son audience.
J'ai voulu informer l'Assemblée nationale de la visite probable de notre directrice exécutive et sous-secrétaire général des Nations Unies, Madame Winnie Byanyima, probablement au courant du mois d'avril. Donc il a bien pris acte de cette visite. On a échangé un peu autour du projet de réforme de loi potentielle autour des blocages, des obstacles qui empêchent les gens d'accéder librement à tous les services de VIH. Cela dit, le Bénin a déjà des lois extrêmement favorables, mais il y a peut-être des petits changements, des petites améliorations à améliorer, plus spécifiquement sur la loi VIH. Et donc, sa réponse était favorable. C'est un travail qui sera conjointement entre le ministère de la Santé, l'Assemblée nationale et avec l'appui donc de l'ONU-SIDA et de la société civile.
Et nous ne serons terminés le tour des actualités qui ont meublé nos différentes éditions de journal cette semaine sans parler société. Préparatifs des fêtes de fin d'année au Bénin, les points de vente des décors et cadeaux de Noël s'animent. Les guirlandes lumineuses, les veilleuses et les sapins de Noël font partie des incontournables de la décoration en période de fête de fin d'année. Les emballages cadeaux pour les enfants sont également des détails non négligeables dans cette préparation des fêtes de fin d'année. Pour certains, les sapins de Noël sont même la clé d'une décoration réussie. Il y en a pour toutes les maisons avec des formes aussi variées que leur prix. Romaric Topin est allé sur un point de vente des décors et cadeaux de Noël. Il relate le constat qu'il a fait.
Midi 35, nous sommes à Tempé. Le ciel est dégagé avec le soleil au rendez-vous, aussi ardent comme une braise. Dans la boutique de la grande maison des Pas et celle de Crystal Kites, la chaleur n'empêche guère la vente des cadeaux de fête de fin d'année. Ils vendent un peu de tout, dont les sapins de Noël.
Nous vendons des jouets, des sapins, les vélos, les ordinateurs, un peu de tout pour enfants en fait.
Nous vendons un peu de tout, nous vendons des jouets pour les enfants, filles comme garçons, des tout petits. Nous avons aussi les habits, les sapins de Noël, taille 12, taille 14, taille 16 et taille 24.
Il y en a de différentes tailles, de différentes couleurs, avec leurs prix qui vont avec.
Les prix des sapins, ça dépend de la taille que vous choisissez. Par exemple, pour taille 14, c'est à 2500. Pour la taille 25, c'est un grand sapin, c'est à 16 000.
En fonction de la taille et puis de la couleur, aussi de la décoration en fait. Par exemple, le sapin blanc, par exemple, ça c'est à 26 000. Le vert avec les décorations et tout, à 58 000.
Au-delà des sapins de Noël, les jouets pour faire plaisir aux enfants sont entre autres les ballons, les bébés, les vélos et bien d'autres.
Déjà, les sapins, les jouets, par exemple les vélos, les tablettes, les poupées, un peu de tout qui peut faire plaisir à l'enfant en fait.
Les trottinettes, les Monopoly, Scrabble, les poupées pour les enfants, les jeux de construction, les tablettes surtout, les ordinateurs éducatifs, c'est ce qui coule le plus, les vélos aussi et les voitures.
Malgré le temps qu'il fait, des parents sont sur les lieux de vente pour offrir des cadeaux de fête de fin d'année à leurs enfants ou encore à leurs frères.
Et je viens d'acheter une trottinette pour ma fille parce qu'elle a déjà un vélo. Cette année, j'ai voulu lui offrir une trottinette. Bon, il y a les petites caprices d'enfant, mais bon, elle a été ça, elle a bien travaillé à l'école, donc elle méritait.
Déjà, je suis célibataire, mais bon, je prévois prendre ça pour mes petits frères, en fait.
Je n'ai pas encore des enfants, mais je prévois en prendre pour mes neveux.
Bon, cadeau, Louis.
Les petits plats sont mis déjà dans les grands au niveau de certains parents pour une réussite en ce qui concerne les fêtes de fin d'année.
Santé Insectes de ce dimanche 17 décembre 2023, stop et fin. Merci de nous avoir suivis. Présentation Fortuné Doting, réalisation Tubis Rérénou. L'information continue sur Radio Afrique Santé.